9h, midi.
Sud Radio.
Pierre Chasseret.
Laurence Perrault.
Ça roule avec Autosécurité, votre contrôle technique en toute tranquillité.
Et ça roule avec vous, bien sûr, un seul numéro pour intervenir dans notre rendez-vous, 0826 300 300. On rappelle le sujet du pour ou contre, Pierre, qui va faire réagir, je n'en doute pas.
Pour ou contre le contrôle technique pour les deux roues motorisées. Et on est avec Eric Decaumont, qui est en train d'entrer dans le studio, Laurence.
Et oui, le bel Eric. Motard également, avocat spécialisé en droit routier et motard. Donc je pense qu'il va avoir des choses à nous dire.
Je peux vous faire une confidence, Laurence? Je n'ai absolument aucune idée de la position d'Eric Decaumont. On va voir si, encore une fois, bizarrement, 40 millions d'automobilistes et Eric Decaumont partagent exactement la même opinion.
Sur cette question pour ou contre le contrôle technique pour les deux roues, 0826 300 300, vous êtes bien sûr très attendu pour nous donner votre avis, que vous soyez pilote de deux roues ou simple, enfin pas simple, ou automobiliste.
Et puis, oui, pourquoi simple?
Parce que les choses les plus simples sont les meilleures, tiens, prends. Avant 11h, on aura aussi notre Raconte-moi ta voiture qui nous permettra de rencontrer Didier Bourdon. Et puis on va jouer, mon Pierre, on a toujours ces entrées sublimes pour ceux qui ont envie d'aller vivre le fameux historic tour. Ça se passera sur le circuit de Nogaro le 5 et 6 septembre prochain, c'est-à-dire le week-end prochain. Et si on jouait maintenant, tiens,
Didier
d'ailleurs...
Bourdon, c'est marrant quand même parce que nous qui parlions de moustiques tout à l'heure.
Allez, on joue.
L'autocadeau.
Et pour gagner une entrée pour deux personnes pour aller vivre le 5 et 6 septembre prochain sur le circuit de Nogaro, le fameux historic tour, vous allez vous régaler. Que vous aimiez ou non les courses, en tout cas vous allez vous régaler surtout de voir ces voitures de légende. Il y a plusieurs compétitions, il y a plusieurs parades, il y a vraiment plein de choses à y faire. Voici la question. En quelle année a eu lieu la première course automobile officielle en France? Question simple. Réponse, peut-être qu'il l'est un petit
bleu,
peu moins.
Bleu, blanc ou rouge?
En quelle année a eu lieu la première course automobile officielle en France? 1. 1894. 2. 1904. 3. 1924. 0826. 300. 300. Vous n'hésitez pas, vous nous retrouvez dès maintenant. Je vous attends, mais tout de suite, juste après ça.
Le pour
ou contre?
Et le pour ou contre aujourd'hui, pour ou contre un contrôle technique pour les deux roues, vous en pensez quoi? 0826 300 300, on fait un point.
Alors
d'ailleurs sur cette
là.
Question, Gaspard.
Le gouvernement pourrait instaurer un contrôle technique pour les deux roues. Le but, instaurer un principe d'égalité entre les automobiles et les deux roues et faire baisser la mortalité sur les routes. Pour rappel, sur les 360 personnes qui ont perdu la vie sur la route au mois de juillet, 105 étaient des motards. Dans Ça roule, on se pose la question, quand on voit le nombre élevé de victimes dues aux deux roues, est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'appliquer un contrôle technique pour ces véhicules?
Vous en pensez quoi? 0826 300 300. Pierre, un mot juste avant d'accueillir Luc qui est déjà avec nous au standard et Fatima qui suivra.
Ah bah autant vous dire que c'est un sujet qui divise. On va parler de ce qui se passe pour les automobilistes. Quand vous avez un véhicule neuf, vous êtes soumis au contrôle technique après 4 ans d'ancienneté, puis tous les 2 ans. Il y a eu récemment un petit peu de polémique sur la possibilité de mettre en place un contrôle technique annuel pour les automobilistes. C'est pas passé. Donc on n'en parle plus, ça c'est terminé. Et l'idée qui se profile aujourd'hui, c'est de savoir comment endiguer cette mortalité à la hausse chez les deux roues motorisées. Je le disais tout à l'heure, mais je le rappelle, 2,7% des usagers de la route, 2,7% sont des motards, des deux roues motorisées. Ils pèsent pour un quart des tués sur la route et ils pèsent pour près de la moitié des blessés graves. Peut-être que le contrôle technique pourrait, notamment en ce qu'il contrôle les freins, les systèmes de freinage, les systèmes essentiels de sécurité, peut-être pourrait-il être une piste intéressante pour sauver des vies.
Alors, on va en parler dans quelques instants avec notre invité que nous saluons maintenant, Maître Decaumont. Bonjour, Maître.
Bonjour à tous.
Mais tout de suite, la parole vous est donnée. Allez, on accueille, je crois que c'est Luc qui nous appelle d'Orthez pour nous donner son avis au 0826 300 300. Bonjour, Luc.
Oui, bien bonjour.
Quelle jolie voix.
Merci de nous laisser la parole, c'est très sympa et surtout très important. Alors, personnellement, motard depuis 40 ans, pratique la moto toute l'année, d'été comme hiver, sans souci. Le contrôle technique, alors non, je suis contre. Alors contre, pourquoi? Parce qu'une moto, c'est la grosse différence par rapport à un véhicule carrossé, c'est que tous les organes d'abord sont visibles. Secondo, une moto, si elle n'est pas entretenue, ce qui n'est pas le cas des motards qui entretiennent leur machine, si c'est pas entretenu, vous ne pouvez pas la piloter. Si vous avez des pneus usés, elle ne tient pas la route. Si vous avez des freins défectueux, elle part en godille. c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'un motard entretient son véhicule, il fait attention parce que c'est sa propre vie qui est en jeu. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on parle, effectivement, malheureusement, il y a beaucoup trop de motards qui laissent la vie sur la route. Ça, c'est une évidence. Alors, quand je dis motard, véhicule, les deux véhicules motorisés, enfin, les deux roues motorisées, je pense aussi qu'il y a un petit amalgame qui se fait entre la moto et le cyclomoteur. Parce que, il y a vraiment une très, très grande différence. Les scooters sont différents, oui.
Luc, vous avez vu, je me suis repris quand j'ai dit les motards pèsent pour la moitié des blessés graves. Vous avez vu, deux roues motorisées.
Oui.
Parce que chez les motards, Laurence, il faut savoir une chose, et je crois qu'Éric Decomont va me dire la même chose, il y a la communauté motard, ceux qui entretiennent leur moto comme des bijoux et comme la prunelle de leurs yeux, et il y a aussi ceux qu'ils appellent, eux, motards, ceux qu'ils appellent les cyclomotoristes. Mais dans les chiffres de la sécurité routière, c'est la même chose. Que vous soyez sur un scooter 125 cm3 ou que vous soyez sur une magnifique moto entretenue, c'est pareil, c'est un deux roues motorisé.
Éric Decomont. C'est une grosse erreur. C'est un amalgame qui est assez intéressant, enfin, qu'il faudrait souvent soulever. Effectivement, dans les scooters, quand vous voyez un enfant, enfin, moi, j'ai des enfants qui ont fait des deux roues, ils en font toujours. Les véhicules, c'est-à-dire l'imprudence est mise lors de la conduite de ces jeunes parce qu'ils sont en bande, parce que c'est sympa, parce que ça le fait bien devant les filles, et ils les amènent malheureusement à avoir des accidents ou de provoquer des accidents. Ça, c'est... Les statistiques devraient être beaucoup plus épluchées, beaucoup plus saucissonnées en disant, bon voilà, les risques les plus importants sont pour ce tel véhicule et dans telle circonstance et dans tel endroit et à telle époque, et permettrait de mieux cibler ce qui va pas et ce au quoi faut mener une action. Il y a eu des actions que le gouvernement a fait récemment avec démontrer dans des écoles ce qui pourrait arriver à 50 à l'heure avec un scooter. Ça devrait être réitéré, ça devrait être mieux ancré, mieux mis dans les esprits des jeunes qu'un deux roues, il n'y a pas de carrossage et que le risque de mortalité ou d'accident est important.
Luc, je voudrais qu'on donne la parole à notre invité Éric Decomont également, qui ne piaffe pas d'impatience car c'est un bel étalon, mais il ne sait pas piaffer, mais qui voudrait réagir à votre discours. Maître Decomont.
Maître Decomont, il partage beaucoup, pour ne pas dire tout ce que vient de dire Luc, parce que Maître Decomont, effectivement, il est motard depuis plus de 40 ans maintenant, et il sait qu'effectivement, il y a un danger terrible d'amalgame. À savoir que, comme le disait très bien Pierre tout à l'heure, c'est pas du tout la même population. Les utilisateurs de cyclomoteurs, de scooters 50 cm3, de scooters 125 cm3 à la limite, et les utilisateurs de motos. Et ce qui est très dommage, c'est que dans les statistiques, effectivement, on ne fasse pas la part des choses. Alors, effectivement, c'est facile, puis il y a des chiffres qui choquent en disant, voilà, 2,7% de roues motorisées, 25% des morts ou des accidents graves sur les dernières statistiques. Attention, elles sont particulièrement mauvaises, c'est pas les statistiques sur le long terme. Mais après ça... Avant que de jeter le haro sur le motard, il faut effectivement se poser un certain nombre de questions. Il y en a qui ont été très bien présentées tout de suite, à savoir qu'on sait très bien que le motard, le vrai motard, et je sais de quoi je parle, parce que je suis venu en moto, parce que je ne me déplace qu'en moto, c'est un amoureux de son véhicule, et bien entendu, il ne le laisserait jamais se dégrader, je dirais déjà par amour pour le véhicule, mais par la force des choses également, bien sûr, parce qu'il sait que c'est sa vie qui est en danger par rapport au véhicule, par rapport à l'état du véhicule. Donc, il y a, de la part du motard, une prise de conscience qui rend toute forme de contrôle technique complètement superflue, alors même que les automobilistes, et on le sait très bien, eux, tant que ça roule, tant que la voiture démarre et qu'elle va jusqu'à leur bureau, ils sont beaucoup moins attentifs au fait de savoir si, ah tiens, c'est un petit peu usé, c'est un petit peu encrassé, c'est un petit peu ceci, c'est un petit peu cela.
Vous faites un peu, excusez-moi, maître de comment, je vais laisser la parole à Pierre qui veut aussi réagir, mais moi en tant qu'automobiliste, je me sens absolument pas concerné par ce que vous dites. Et puis je trouve quand même que d'un seul coup, vous dites les motards sont les plus beaux, les meilleurs, il faut super attention, les autos pas du tout.
Non, je dis que les motards sont les plus beaux et les meilleurs, ça je m'en demanderai jamais. Mais je suis également un automobiliste, donc je sais très bien. Effectivement, de quoi je parle, il y a bien entendu des gens particulièrement attentifs, vigilants, motivés.
Pourquoi il y a deux poids, deux mesures en France? Pourquoi les motos ne doivent pas passer un contrôle technique? Excusez-moi, je me fais l'avocat du diable.
Parce que ça ne sert absolument à rien pour une catégorie, les motards, qui de toute façon font le contrôle technique tous les jours, si j'ose dire. Sont extrêmement attentifs à l'état de leur véhicule, parce que c'est leur vie qui est en danger, qui l'entretiennent mieux que nécessaire, si j'ose dire, et qui effectivement n'ont absolument rien à gagner sur un contrôle technique.
Pierre.
En fait, pour faire simple, hein, Éric de Caumont, Luc, c'est tout simple, c'est la même chose que pour le cycliste. Vous avez le cycliste professionnel, bah lui, il y a aucun doute. Hein, quand il descend le Mont Ventoux à 95 km/h, je peux vous dire qu'il a intérêt à faire très attention à son fidèle destrier. En revanche, pour ce qui est de celui qui fait du vélo occasionnel, eh ben on trouve des vélos qui sont des vieux clous sur lesquels véritablement de temps en temps les freins sont mal entretenus. Et en fait, on en parlera peut-être après la pause, mais le vrai détonateur dans les pouvoirs publics aujourd'hui, chez les pouvoirs publics, c'est de se dire comment lutter contre le débridage des petits deux-roues motorisés. Parce qu'il y en a énormément qui conduisent totalement débridés. Et le contrôle est malheureusement la seule option. Mais après, à partir du moment où on met un contrôle pour les deux-roues motorisés, les petits, on est obligé de le faire presque pour tout le monde, quoi.
Allez, au 0826 300 300, vous continuez de nous appeler, on fait une première pause dans quelques instants, on accueille Fatima qui veut nous donner son avis, et puis on aura également Sébastien qui lui aussi veut nous dire ce qu'il en pense. Il est moteur et réparateur de cycles et de cyclos, ce sera également très intéressant d'avoir son avis sur la réalité de ce qu'il vit en tant que réparateur. 0826 300 300, le sujet pour ou contre un contrôle technique pour les deux roues, on vous attend.
Le pour
ou contre.
Et pour ou contre, un contrôle technique pour les deux roues, 0826 300 300. Les deux roues, c'est vraiment tous les véhicules motorisés à deux roues et pas simplement que les motos. Vous venez nous donner votre avis, on en parle avec Maître de Caumont, Pierre, notre avocat spécialisé en droit routier. Et puis évidemment avec vous, qui pouvez nous donner votre avis. On va accueillir une femme, Pierre, sur ce rendez-vous.
Bonjour Fatima.
Bonjour petit Pierrot, bonjour Laurent.
Oh, j'adore. Ah, bon, non, mais on se connaît bien, team, Fatima, hein. Voilà, on se connaît bien.
On voit ça, bien sûr,
on fait la moto ensemble.
Non. Dites donc, Pierre, vous m'avez pas tout dit.
Non, mais sur quoi?
Sur le fait de faire de la moto avec d'autres.
Alors, moi, je veux dire, franchement, j'adore la moto. J'adorerais ne pas avoir peur de la moto. Voilà. J'adorerais ne pas avoir peur d'en faire.
Suffit qu'il monte derrière moi. Il n'aura définitivement plus envie de faire de la moto.
Mais tout est pour Pierre. Alors, Pierre s'occupe des femmes. Normalement, Maître de Caumont, c'est moi que vous devez emmener.
Bah oui, mais bon, moi, j'ai mes préférences. C'est comme
d'accord,
ça.
Ok. Hein,
si j'emmène un petit Pierre avec moi en moto.
Pardon, Fatima. Hein,
je vous emmènerai.
D'accord, merci ma Fatima. Alors votre avis sur la question, pour ou contre un contrôle technique pour les deux roues?
Écoutez, moi justement, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que je rejoins tout à fait le point de vue de Maître de Caumont et de Luc. Il y a deux sortes de cyclomotoristes et en fait, moi j'intervenais surtout pour les jeunes qui ont des scooters débridés.
Et voilà.
Voilà, c'était moi ce que je voulais dire à l'antenne, c'était ça, et vous m'avez coupé l'air sous le pied.
Ah, mais ouais, mais c'est ma spécialité.
Parce que moi aussi, j'ai une moto et on
l'entretient
aussi.
On m'appelle la tondeuse à gazon.
Je sais pas dans quel cas, mais là, vous m'avez coupé l'air sous le pied. C'est tout à fait ça, parce que je vois beaucoup de jeunes.
Vous êtes motarde, Fatima?
Oui, oui, oui. Et comme dit Maître de Caumont et Luc, on entretient nos machines au fur et à mesure.
Ah, mais alors, comment faire, Fatima, pour avoir un contrôle sur les tout petits deux roues motorisées pour lutter contre le débridage? Et je crois que ça fait l'unanimité. Mais pas pour les autres, d'un point de vue légal. J'ai envie de dire, Eric?
Oui, bah très simplement, Pierre, en faisant peut-être un contrôle technique sur les 50 cm3, ce qui ne veut pas dire pour autant en faire sur les grosses motos. Il y a différentes catégories de véhicules, on peut très bien avoir des réglementations différentes. Pour conduire une moto, il faut un permis. Pour conduire un 50 cm3, il suffit d'un BSR et pendant très longtemps, il y avait besoin d'aucune qualification. C'est pas traité pareil en matière de réglementation déjà. Pourquoi obligatoirement traiter de la même façon en matière de contrôle technique tous les véhicules? Je précise deux choses concernant ce contrôle technique des 50 cm3. Premièrement, oui, ça peut être un élément permettant de s'intéresser au fait que ces véhicules sont ou ne sont pas débridés. Maintenant, je vais vous dire, ne soyons pas dupes. Le contrôle technique, c'est pas un contrôle de police inopiné. Contrôle technique, on y va, le véhicule est en parfait état, à la sortie, on fait un tour au garage, et comme par hasard, il va être redébridé pendant les deux années qui suivent. Bon, donc c'est pas, à mon avis, la panacée universelle. Et je vais aller même encore un petit peu plus loin, mais là, c'est de la provocation absolue, c'est l'avocat du diable qui vous parle. Je connais les 50 cm3 parce que j'ai trois fils motards et qui sont passés par les 50, par les 125 et qui sont maintenant sur des gros cubes. Et je peux vous dire que un 50 cm3, il y a débridage et débridage. Il faut pas tout confondre non plus. Je peux vous dire que le gamin qui a un véhicule, un petit scooter français qui est prévu d'origine pour être limité à 45 km/h, qui le débride au sens propre du terme, qui le gonfle justement, qui le gonfle, qui le pousse et qui tire des performances d'un moteur qui ne sont pas suivies par le châssis, par les freins, par les pneus, c'est un danger public. Et j'ai conduit ce genre de véhicule, je sais ce qu'il en est, et j'en ai même eu qui ont été prêtés par des importateurs, c'est vous dire, pour le parc presse, les véhicules étaient effectivement gonflés. Et puis à l'inverse, vous avez des véhicules, je pense notamment à certains 50 cm3 de marque italienne, qui sont de véritables petites motos, qui sont dans certains pays prévus pour être en puissance libre, si j'ose dire, qui ont des freins, qui ont un cadre, qui ont des suspensions qui leur permettent de rouler sans aucun problème à 80, 90, 100 km/h, et qui sont, par certains, débridés, c'est-à-dire qu'on enlève la bride obligatoire pour rouler en France, et on les remet dans leur configuration d'origine, avec une vitesse nettement plus élevée, effectivement, et pour laquelle ils ont été conçus, et ils sont parfaitement sûrs à cette vitesse-là. Après ça, le problème est de la qualification, éventuellement, du conducteur. Mais je veux dire que le véhicule, en tant que tel, n'est pas un danger, parce qu'il n'est pas poussé au-delà de ses capacités, notamment en matière de châssis et de tenue de route. Donc là aussi, vous voyez, il faudrait presque faire une différence entre les débridages et les remises en configuration d'origine.
Allez, on va vous laisser, Fatima, passer une très très belle journée.
Gros
on a
bisous,
Sébastien,
Carole,
gros bisous. Beaucoup, beaucoup de monde au standard, donc on va vraiment donner la priorité aux auditeurs. Sébastien qui nous rejoint. Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour.
Alors vous n'êtes pas du tout dans le sud, vous êtes dans le 44.
Non.
Et
voilà.
Par contre, vous passez par là et c'est plutôt cool. D'ailleurs, dans le 44, on peut écouter Sud Radio sur Internet. Vous êtes motard et réparateur de cycles et de cyclos. Quel est votre avis sur cette question ?
Ben en fait, donc moi, la moto, ça fait plus de 15 ans que je la pratique. Donc j'ai essayé toutes les sortes de motos possibles, hein, que ce soit de la sportive, de l'enduro, un petit peu de cross et un petit peu de piste, hein, en loisir. Donc aujourd'hui, je reviens sur ce que disait notre dernier auditeur. Il me semble que c'était Loïc ou Luc.
Il y a Luc l'avant-dernier, oui.
Voilà. Donc moi, c'est simple. Hein, quand on monte sur une moto, bah, on a envie de rester en vie. Donc on fait attention à tous les organes qu'il y aura dessus. Par contre, moi qui entretiens, qui répare et qui vend du cycle et du cyclo, c'est vrai que nos jeunes sont alors entre guillemets des dangers publics pour certains, pas pour tous. Et le pire, c'est les parents. Parce que quand je vends un scoot neuf, la première question des parents quand le scoot est prêt à partir, quand est-ce qu'on va pouvoir le débrider pour qu'il roule plus vite que 45 km/h?
Bon, ben voilà, tout est dit, quoi.
Voilà.
De temps en temps, l'exemple, il est à montrer par les parents. Hein. L'éducation, voilà. Ça sera toujours les parents.
Et donc, en fait, les parents achètent un scooter aux enfants pour leur laisser de l'autonomie. Comme ça, les parents sont tranquilles. Le gamin, il a son scooter. Malheureusement, moi, juste il y a 3 semaines avant les vacances, j'ai le fils d'un de mes clients qui s'est tué en scooter. Le scooter était tout d'origine, on ne sait pas ce qui s'est passé, ils ne se sont pas arrêtés à un stop, un camion est passé par là, boum, 2 morts. Voilà.
Alors,
le scooter était entièrement d'origine, on ne sait pas si c'est une erreur humaine ou si c'est une erreur mécanique.
Par contre, ce qui est important dans ce que vous venez de dire, on va revenir Sébastien et je voudrais qu'on laisse aussi Maître de comment en parler, c'est qu'on en parlait hors antenne tous les deux, c'est quand on voit les chiffres de la mortalité des accidents pour les deux roues, malheureusement la majorité sont créés par d'autres que par le pilote
oui,
lui-même.
Oui, là aussi, c'est, ouais. en tant que motard, et je dirais, je porte aussi implicitement la parole de la Fédération Française des Motards en Colère, dont je suis un membre quasiment fondateur, il faut quand même là aussi faire très attention, là c'est une autre forme d'amalgame, c'est de dire... On se tue beaucoup en moto. Oui, on se tue ou on est tué beaucoup en moto. Parce que il y a quand même une vérité que tout le monde va comprendre, c'est que si un camion me refuse la priorité, c'est pas le camion qui aura mal. Hein. De toute façon, un utilisateur de deux roues sera toujours plus fragile. Il y avait des communications très très claires, de très bonnes campagnes de publicité là-dessus. Ce que un utilisateur d'un véhicule carrossé. Et il y a aussi une question de poids. Quand vous percutez un 35 tonnes, carrossé ou pas carrossé, de toute façon, vous faites beaucoup plus mal quand vous êtes sur un véhicule léger, même quand vous êtes dans une voiture. Donc, et ça, ça avait été bien mis effectivement en lumière par une enquête de la FFMC, c'est que lorsque il y a un accident qui implique un deux roues, il y a forcément toujours des dégâts plus graves pour l'utilisateur de deux roues, ça c'est évident. Dans les statistiques, on dit on se tue beaucoup plus en moto, en deux roues motorisées qu'en voiture ou que en camion par exemple. C'est une évidence, mais quand on dit on se tue, il faut faire la part des gens qui se tuent par défaut de conduite par éventuellement défaut d'entretien du véhicule, des gens qui sont tués par un automobiliste, par un conducteur de poids lourd. Et dans la statistique, bah, qu'est-ce qu'on dit? On dit oui, on meurt plus facilement sur une moto. Bah oui, c'est vrai, parce que la moto sera toujours plus fragile, le conducteur sera toujours plus en danger, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il faut interdire les motos. Il faut simplement apprendre à partager la route. Et là aussi, ça avait été dit, ça mériterait d'être redit, il faut que les utilisateurs de véhicules mieux protégés, les voitures, les camions, les autobus, tout ce qu'on veut, soient plus attentifs aux conducteurs de deux roues.
Oui, et 16,6% des accidents mortels ont lieu sur des refus de priorité ou en tout cas des systèmes de priorité. Et la plupart des victimes dans ces circonstances, Éric Decaumont a tout à fait raison, comme d'habitude, hein, ce sont malheureusement des deux roues qui pâtissent le cela. Parce qu'on les voit pas aussi de temps à autre, parce que quand on est automobiliste, voir une moto, c'est plus petit, on peut passer à travers. Bon, bref, si on résume, Laurence, on se retrouve quand même avec des gens qui sont plutôt hostiles à un contrôle technique de roue pour les gros cylindrés, mais plutôt OK pour les petites.
Alors, pour ceux qui sont intervenus et qui sont essentiellement motards, ça aurait été aussi intéressant d'avoir l'avis d'un automobiliste, en fait. Pourquoi pas, au 0826-300-300. Mais on va tout de suite conclure notre rendez-vous avec Michel, qui est au standard... Jean-Michel, et qui nous attend au standard de Sud Radio. Il est à côté de Toulouse. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour. Bonjour à tous. Je vous appelle parce que moi, je ne suis absolument pas motard. Comme beaucoup, j'ai eu un scooter 125 que je conduisais avec prudence, que j'ai revendu depuis parce que j'ai cessé toute activité professionnelle. Ce qui m'inquiète un petit peu, si vous voulez, c'est quand on dit les motards, les entretiens de leurs machines, je n'ai aucun doute là-dessus, mais je pense qu'il y a deux poids, deux mesures. Je suis moi-même, très fan d'automobile. J'ai à ma position une voiture de sport, dite de grand sport. Je peux vous dire qu'elle est entretenue, il y a tout ce qu'il faut, mais je passe un contrôle technique.
On va conclure après, là.
Et je passe un contrôle technique. Je vois pas pourquoi les motards refusent. On leur a proposé le fait de partager la route, on leur a proposé un gilet jaune, qu'ils ont absolument refusé, alors que je trouve que c'était une très bonne idée. Alors voilà, si vous voulez, moi je suis absolument pour. On dit qu'effectivement les jeunes avec les cyclos, tout ça, ça cause pas mal d'accidents. Mais moi quand je vois sur la route, souvent je vois des grosses cylindrées couchées sur le côté. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de motards imprudents, certainement pas dû au fait que leur machine soit mal entretenue, mais je pense que le partager la route, ça doit être fait dans les deux sens.
Pierre, maître de Comont.
Encore une fois, sur cette obligation, on va parler de ce fameux gilet jaune, hein, pour lequel il y a eu encore aussi beaucoup de débats. Vous savez que la réglementation à l'heure actuelle, qui est passée depuis le 1er juillet, c'est qu'on est tenu d'avoir un gilet jaune dans la moto, comme il y en a un dans la voiture, et on est tenu de le porter en cas de panne ou d'accident. Bon, et là, on se rend compte à quel point ceux qui font la réglementation ne savent pas ce que c'est que de conduire une moto. Parce que quand votre voiture tombe en panne, ou éventuellement quand elle est accidentée, vous êtes dans la voiture, vous prenez le gilet, vous sortez, vous vous protégez visuellement, si j'ose dire, avec le gilet. Quand vous avez un accident à moto, 9 fois sur 10, vous êtes d'un côté la moto et de l'autre. Elle est bien loin. Et quand vous êtes vous-même encore en état de vous déplacer, de vous relever et de courir à la moto, d'ouvrir le coffre si tout ça n'a pas été faussé et d'aller chercher votre gilet. Donc vous voyez que il y a un problème. Quand on parle d'égalité, moi je veux bien parler d'égalité, mais il ne faut pas oublier la différence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le même cahier des charges. Je le répétais tout à l'heure, un petit accrochage entre deux automobilistes, c'est de la tôle froissée, c'est le carrossier qui va faire des affaires, c'est les assurances qui payent, on repart chez soi et tout va très bien. Le même petit accrochage avec un cyclomotoriste ou un motard, ce sont des blessures graves, c'est probablement l'hôpital et ça peut être encore bien plus tragique que cela. Donc nous sommes amenés à partager la route, nous sommes égaux en droit, c'est clair, effectivement, soumis à un certain nombre de réglementations identiques, comme par exemple les priorités, les limitations de vitesse, etc., ainsi de suite. Mais nous sommes éminemment différents et vouloir absolument soumettre tout le monde exactement aux mêmes obligations, c'est parfaitement incohérent. Il est question, on est sur cette dynamique, d'autoriser les deux roues à remonter la circulation interfile, à remonter les fils, par exemple, sur les boulevards périphériques ou sur des autoroutes, à condition, bien entendu, que ça soit fait dans des conditions de sécurité, avec un différentiel de vitesse faible entre les véhicules automobiles et les deux roues motorisées. On n'autorisera jamais les voitures à remonter interfile, de toute façon elles n'ont pas la place.
Bon, ça tombe sous le sens.
Donc vous voyez bien qu'on sera jamais totalement identique, qu'on soit relativement égaux en droit devant la réglementation, d'accord, mais il faut encore une fois tenir compte de la spécificité. Et franchement, si tous les automobilistes, les conducteurs de véhicules à quatre roues, étaient particulièrement attentifs aux deux roues... Et inversement, bien entendu, parce que le deux roues n'est pas le roi de la route.
Exactement.
Et il ne doit pas traiter les autres, effectivement, avec mépris. Il doit faire aussi attention, ne serait-ce qu'à pas provoquer des situations délicates vis-à-vis des autres. Je pense que si on apprenait à partager la route, ça serait mieux que tous les contrôles techniques, tous les gilets jaunes, tout ce que vous voulez.
Allez, Pierre, pour le mot de la fin.
Oui, oui, une toute petite histoire très courte. En fait, c'est ça s'est passé du côté de Fréjus. Il y a eu une manifestation de certains motards qui voulaient manifester contre un centre de contrôle technique qui s'était fait implanter un banc de contrôle de roues. Et lorsque le patron de ce centre de contrôle technique a vu arriver le président de celui qui conduisait cette manifestation, lui a proposé de passer sa moto sur le banc et lui a détecté tout de même un problème de frein. Donc, comme quoi, même si vous êtes un motard confirmé, franchement, de temps à autre, poussez un petit peu le contrôle sur votre monture et sur votre fidèle destrier, ça fera jamais de mal. Alors si c'est pas être totalement pour le contrôle technique, au moins au niveau de l'entretien, il y a peut-être des progrès à faire chez certains.